Chapitre 49. Pascal avait rapporté les petits pains traditionnels du lundi matin. Lucie versait le café brûlant dans les mugs. 5 jours après l'épisode de la cabane, leur groupe tentait de garder le cap, en dépit des récentes tempêtes affrontées. Ça faisait pile 15 jours qu'Audra avait été admise à l'hôpital, et chacun y pensait en croquant dans sa viennoiserie. Les photos étaient toujours accrochées, ses affaires personnelles en place, comme si elle était juste partie en vacances et qu'elle allait revenir la bouche en cœur, avec des cadeaux, ainsi qu'elle le faisait chaque fois. Personne ne toucherait à rien, évidemment, tant qu'elle serait encore là, dans cette espèce d'entremonde indéfinissable sur lequel même les médecins butaient. La mort du cerveau signifiait-elle la mort totale et inéluctable de l'être? Telle était la question sur laquelle, depuis plus de 50 ans, philosophes, biologistes et médecins s'escrimaient. Depuis en fait que le comité de Harvard, en 1968, avait proposé que la mort puisse être définie neurologiquement comme la perte irréversible de la fonction cérébrale. Niveau enquête, Rémi Calvar était parti en détention provisoire, sur ordre du juge d'instruction. Les preuves accumulées contre lui étaient lourdes, et même s'il niait être un meurtrier, il reconnaissait être l'auteur des actes qui lui étaient reprochés. De nombreux rapports manquaient pour conclure cette affaire proprement. L'équipe les établirait sur le long terme, entre les urgences à traiter. Puis il y aurait un procès, un jour, à l'issue duquel la justice déciderait de son niveau de responsabilité dans le meurtre de 5 personnes. Une autre paire de manches, mais ce ne serait plus leurs oignons. Des comparaisons ADN avaient par ailleurs établi que Corinne Durieux, habitant un appartement à Louviers, était bien la victime du nécrophile Bertrand Fermont, déchiqueté sous un train. Les radiographies découvertes à son domicile avaient également permis de remonter jusqu'à l'hôpital qui avait pratiqué la greffe osseuse, une clinique privée de Rouen. Le médecin que Lucie avait eu en ligne, à la fin de la semaine précédente, avait promis de la rappeler ce jour-là pour lui fournir l'origine du col du fémur greffé. En définitive, si des portes se refermaient, la plupart demeuraient encore grandes ouvertes. Les auditions du personnel du territoire du néant n'avaient abouti à rien pour le moment. Les individus interrogés infirmaient l'existence de quoi que ce soit d'illégal. Les deux patrons avaient même laissé, gage de leur bonne foi, les policiers inspecter leur établissement. Mais Charcot n'avait malheureusement pas retrouvé la trappe qui menait aux catacombes. Quant au moustachu à la peau tannée, il ne faisait, selon toute vraisemblance, pas partie des employés. Pour bien faire, il aurait fallu une fouille beaucoup plus poussée, mais le juge ne leur avait pas donné le feu vert, à défaut de preuves concrètes. Côté Darknet, le site avait en tout cas disparu, comme par enchantement. Charcot pourtant ne doutait pas une seconde qu'il allait réapparaître ailleurs, dans les abysses insondables du web interdit, et qu'il y aurait d'autres victimes de la folie de ces hommes s'ils n'étaient pas interpellés rapidement. On n'a rien non plus sur les empreintes et l'ADN prélevé à la cabane, précisa Pascal alors que son chef était en train de dresser l'état des lieux. Les fichiers restent muets. Ces gens-là ne sont pas fichés. Sans cacher sa contrariété, le procédurier trempa ses lèvres dans son mug, puis enchaîna. Samedi, je me suis coltiné la visu des caméras de surveillance du péage de Nemours. Grâce à la trace enregistrée par ta puce GPS, j'ai pu identifier l'heure exacte où le véhicule qui te transportait a franchi la barrière. Il s'agit d'une location réservée par Internet avec de faux papiers et qui a déjà été rendue. Le type que j'ai eu au téléphone est incapable de me décrire qui que ce soit. Les clients vont déposer la voiture dans un parking, balancent les clés dans une boîte et basta. On a affaire à des gars qui prennent de sacrées précautions, répliqua Franck. Des précautions, oui, mais on n'est pas tout à fait sec. Pour bien finir mon pensionnat week-end, j'ai jeté un œil sur le net au sujet du sigle que tu m'as dessiné. J'ai fait plein d'essais sur Google, j'ai même scanné le symbole et utilisé la recherche par image. Et j'ai repéré un truc bizarre. Il apporta à Charcot une feuille qui traînait sur son bureau, la copie d'un article de journal. En encadré, la photo d'un bâtiment à la façade en tôle ondulée grise avec l'enseigne « Sageot et fils ». Le haut de sa joue étant représenté par une tête de porc à l'air jovial. « Ça s'est passé en mars 2020, expliqua le procédurier. En arrivant au travail le lundi matin, les employés de cet abattoir de Laigneville, un bled situé à côté de Creil, ont découvert 6 porcs décapités dans les enclos. Un vrai carnage. Sur l'un des murs tachés de sang, un sigle avait été peint en rouge. Pas la peine de vous dire lequel, j'imagine. Frank parcourut en vitesse le papier. Le journaliste n'entrait pas dans le détail de la barbarie, mais il faisait un rapide parallèle avec l'affaire des chevaux mutilés qui avaient ébranlé le pays des mois plus tôt. Le sigle avait été photographié. Selon le pigiste, il pouvait indiquer une revendication et laisser envisager de nouvelles dérives sectaires ou satanistes. « Ils disent qu'une plainte a été déposée par le directeur de l'abattoir », nota Charcot en tendant l'article à Lucie qui le réclamait. « Il semblerait », acquiesça Pascal. « Je vais m'encarder. » Frank regroupa ses mains sur les ailes de son nez en pleine réflexion. Un abattoir de porc. Quel lien entre ce fait divers et leur enquête? En tout cas, s'il y en avait bien un, il ne croyait pas un instant à ces histoires de satanisme, ni qu'il y ait un rapport quelconque avec les chevaux mutilés. La faille et la complexe organisation qui s'articulait autour prouvaient en effet que ces individus avaient d'autres desseins que la sauvagerie gratuite. Soudain, il se figea, le regard rivé sur l'entrée. Lucie et Pascal se retournèrent. Nicolas se tenait sur le seuil, droit dans ses bottes, rasé, la mine fatiguée mais vaillant. D'un geste lent, il referma la porte derrière lui, lorgna vers la place d'Audra, inspira comme s'il se préparait pour une apnée et se dirigea vers Charcot. Il semblerait que mes congés soient terminés. L'avocat me coûte une fortune et il faut bien que je gagne ma croûte. Alors, je me suis dit que si tu voulais encore de moi dans l'équipe, malgré les... Charcot le serra spontanément contre lui et lui tapa dans le dos. Ta place est ici et je suis bien content de te revoir parmi nous. Mais je veux juste être bien certain que ça va aller. Nicolas hocha la tête. Ça va aller. Lucie et Pascal vinrent à leur tour le saluer chaleureusement et lui demandèrent comment il s'en sortait. Nicolas leur relata alors les derniers rebondissements. Le recours devant le Conseil d'État allait être déposé le lendemain par l'avocat, ce qui empêcherait l'arrêt des traitements. ACFAC espérait que, vu la complexité du cas, les enjeux éthiques et les débats que ça entraînerait, l'ordonnance des juges tarderait ensuite, mais, si besoin, il y aurait un nouveau recours qui les conduirait au terme de la grossesse. Il leur expliqua également ses rapports tendus avec l'avocat et partagea avec eux sa décision de garder ses distances avec tout ce tapage médiatique. Audra est à 26 semaines d'aménorrhée à présent, fit-il en soulevant un à un les objets du bureau de sa compagne. Mon fils se porte à merveille dans le ventre de sa mère. Quand on sera à 33 semaines, il sera considéré comme un prématuré moyen. Il en est 45 000 en France chaque année. Il aura toutes ses chances. C'est une bonne nouvelle, se réjouit Franck. Une très bonne nouvelle, oui. Le retour de son lieutenant introduisait un rayon de soleil dans la pièce, et ils en avaient bien besoin. À cet instant, celui-ci s'approcha d'ailleurs de lui et le scruta avec attention, visiblement intrigué par quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Tu as traversé une vitre ou quoi? Tu ne crois pas si bien dire. Nicolas haussa les sourcils. Compliqué l'affaire? Il fit le tour des visages et n'eut pas besoin de réponse. Frank décrocha son téléphone qui vibrait. Quelques secondes plus tard, il adressa un regard à ses coéquipiers. Je vais informer GECO que Nicolas reprend du service et je passe au labo de toxico. Ils ont des résultats. En attendant, vous le mettez au jus.